Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Admission de la RDC dans le bloc régional de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ainsi en a décidé le conseil de ministres de l'organisation. Cette adhésion de la RDC fait l'objet d'une feuille de route en pleine élaboration. Réaction à Kinshasa de la CENCO et de l'ECC à la publication de la feuille de route de la CENI. Les organes techniques de ces structures encouragent le chef de l'État, le Parlement et le gouvernement de permettre à la CENI de mettre en œuvre son agenda électoral dans les conditions optimales. Notre invité, c'est le coordonnateur national du Fonds social de la République. Ruffin Boelongo affirme que 445 millions de dollars américains sont alloués par la Banque mondiale pour financer la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. Avant d'aller plus loin, d'abord cette nouvelle qui concerne le coronavirus en RDC. La DGM a rendu public ce samedi à Kinshasa des nouvelles directives d'entrée en RDC. Ces directives sont contenues dans une note circulaire modifiant celle adressée hier vendredi aux directeurs provinciaux de la DGM, aux chefs de poste frontaliers et aux responsables des compagnies aériennes. Dans la nouvelle circulaire donc, datée de ce samedi, la DGM rappelle que tout voyageur à l'entrée ou à la sortie de la RDC doit présenter obligatoirement un test PCR négatif réalisé dans le pays de provenance 48 heures au plus tard et l'obligation de se soumettre au test PCR réalisé par les services agréés à l'arrivée en RDC. Ce document souligne l'abrogation de l'interdiction d'embarquement de voyageurs en provenance ou ayant transité par l'Inde ou le Brésil. Le Conseil de ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé mardi 8 février l'admission de la RDC dans ce bloc régional, une adhésion sollicitée par la RDC depuis 2019. Quelle devra être la suite de la procédure pour l'intégration effective de la RDC dans ce bloc de l'Est? La réponse tout de suite avec le professeur Serge Tshibangu, envoyé spécial du président Félix Tshisekedi. Dans ces négociations, il a été joint par Pierre-Oué Lamiji.
C'est que la prochaine étape, elle est en double. La première, il est prévu donc un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté qui devrait se tenir en fait ou être convoqué au courant de ce mois de février. C'est le président exercice de la communauté, le président Uhuru du Kenya, qui devrait convoquer cette réunion extraordinaire des chefs d'État pour pouvoir cette fois-là endosser la décision qui a été prise par toutes les instances de la communauté de l'Afrique de l'Est, confirmant donc l'adhésion de la RDC au sein de cette communauté. Deuxièmement, à partir de la date donc de ce sommet, la RDC aura pratiquement 12 mois pour pouvoir soumettre ou introduire les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la communauté d'Afrique de l'Est. Et bien sûr, vous connaissez la procédure avant que nous puissions ratifier ce traité. Donc il faudra bien sûr les autorisations nécessaires venant de notre Parlement afin que le gouvernement puisse signer donc ou ratifier donc le traité de la communauté d'Afrique de l'Est.
On en vient maintenant à la politique. Ainsi que vous le savez, la feuille de route du processus électoral a été rendue publique par la CENI le 3 février. En réaction, les organes techniques de la CENCO et de l'ECC encouragent le président de la République, le Parlement et le gouvernement congolais à s'acquitter chacun en toute responsabilité de ses obligations afin de permettre à la CENI de mettre en œuvre son agenda électoral. Tout en appréciant le fait que la CENI a mis à la disposition des parties prenantes ce document interne. Et dans un communiqué rendu public hier vendredi à Kinshasa, il recommande à la CENI de travailler en étroite collaboration avec ses différents partenaires pour réussir la mise en œuvre de cette feuille de route. Des précisions avec le chargé des programmes éducation civique et électorale des organes techniques de la CENCO, Cyril Ebotoko, a été joint par Pierre-Oué Lamiji.
Il faudra que la CENI travaille avec le gouvernement sur un plan de décaissement. Conformément à la feuille de route qui a été publiée par la CENI, La CENI dira à tel moment, je dois avoir tel montant pour réaliser telle activité. Comme ça, ils le font pour toutes les lignes de s'affaires des routes, comme s'ils auraient un plan de décaissement et le gouvernement va commencer à donner de l'argent en fonction de ces plans de décaissement pour que la CENI ne soit pas essoufflée certainement pour mener ses actes. La CENI doit approcher le Parlement. Et avec le Parlement, au regard des affaires des routes, le Parlement et la CENI devaient avoir un petit planning. Dire par exemple qu'à tel moment, nous avons besoin de telle loi. À tel moment, nous avons besoin de telle autre loi. Comme ça, le Parlement va travailler en fonction de ce planning et la CENI ne pourra pas considérer cela comme une crainte. Il faudra que la CENI travaille avec le gouvernement pour que les mesures de mitigation soient prises à temps et anticipativement pour permettre à cette population de voter cette fois-ci pour éviter ce qui s'est passé la fois passée.
Dans le même chapitre, notez que le consortium Etalibiso, une plateforme des plusieurs organisations de la société civile, appelle le Parlement congolais à inscrire à l'ordre du jour l'examen des lois électorales lors de la session de mars prochain. Parmi ces organisations, il y a notamment l'Observatoire de la dette publique, la dynamique de la jeunesse féminine, l'Association des communicateurs TV. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi à Kinshasa, le chargé de plaidoyer au sein de DIGEF a demandé à la CENI de publier le calendrier électoral en tenant compte du délai constitutionnel. Les propos de Gaëtan Zita ont été recueillis par Paul Matendo.
Le consortium Etalibiso exhorte le Parlement à inscrire à l'ordre du jour pour débat et vote à la session de mars 2022 la proposition de loi électorale afin de faciliter à la CENI la mise en œuvre des opérations électorales dans le délai constitutionnel. Le consortium Etalibiso exhorte à la CENI à prendre la décision portant publication du calendrier électoral assorti du budget détaillé des opérations électorales et du plan de décaissement pour faciliter le gouvernement à financer le processus électoral en tenant compte du délai constitutionnel. Au président de la République, a impulsé l'élaboration d'un projet de loi de finances rectificative essentiellement portant réduction du train de vie des institutions en vue de dégager les moyens nécessaires à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel.
On enchaîne avec la Tchopo où les paysans habitants le long de la route nationale numéro 4, Kisangani, Bafouassende, se plaignent ce jour-ci du manque d'eau potable, des centres de santé et des écoles dans leur milieu. Ils ont soumis ces doléances à une délégation de l'ambassade des Pays-Bas en mission d'évaluation des activités réalisées par les paysans sous l'encadrement technique de Tropembos RDC avec l'appui technique et financier de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale dont les Pays-Bas est l'un des bailleurs de fonds. À Kisangani, Jacques Mukongole.
Dans différents villages où huttes se sont arrêtées pour l'évaluation des activités réalisées par Tropenbos, les paysans ont saisi la balle au bond pour étaler leurs difficultés, non seulement dans le cadre de la préservation des forêts, mais aussi sur leur mode de vie, notamment en ce qui concerne le manque d'eau potable, d'écoles et des centres de santé.
Il n'y a pas l'école primaire, voire même une poste de santé. À partir de 1960 jusqu'à nos jours, notre communauté souffre, notre demande est qu'on puisse nous aider.
À ce sujet, bien que ces besoins ne fassent pas partie de son mandat, le directeur de Tropenbos RDC a révélé que son organisation a déjà pris contact avec une ONG internationale qui a arraché un projet de forage de puits pour fournir de l'eau potable à ses paysans. Professeur Alphonse Maindo.
John Fowota, qui est venu nous voir, c'est là qu'on peut intervenir. Et ça a abouti à un projet qu'on a introduit à la coopération belge et ça a été accepté. Et nous sommes en négociation pour signer l'accord pour ça. Donc les gens dans ces CFSC-là pourraient avoir des puits d'eau aménagés.
Pour sa part, la chargée des missions de l'ambassade de Pays-Bas en RDC, Evelyne Boesma, a fait savoir qu'actuellement le financement de son pays ne prend pas en compte d'autres secteurs en dehors du projet climat. Néanmoins, elle dit pouvoir mener le plaidoyer auprès du gouvernement congolais et d'autres organisations internationales pour voir dans quelle mesure y apporter des solutions idoines. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, cette organisation de la société civile du secteur de la santé appelle le gouvernement congolais à investir plus de moyens pour la couverture sanitaire universelle. Ces organisations l'ont dit lors d'une table ronde organisée hier vendredi à Goma. Selon ces organisations, la province du Nord Kivu continue d'enregistrer des décès maternels et des morts liées à des maladies pourtant évitables. Le coordonnateur exécutif du Conseil sur la santé et l'Académie médicale, une de ces organisations, recommande vivement aux décideurs congolais de revoir à la hausse le budget alloué à la santé publique. Dr Elia Muhindo le dit à Denise Lukeso.
Pour l'année 2021, pour les décès maternels, les Nord Kivu étaient en première position, suivi des Ituri. Il y a d'autres Kumer parce qu'ils n'ont pas eu accès aux soins de santé. Ils n'ont pas l'argent pour se payer les soins. Moi, je suis médecin du milieu rural. Il y a là où on manque même des kits d'accouchement. Il y a des structures qui ne sont pas équipées. Et nous, les acteurs de la société civile, on s'est dit aujourd'hui, on profite de cette journée pour, une fois encore, hausser la voix, renforcer la demande auprès des autorités, même ceux qui font le loi pour que on puisse y arriver à cette couverture sanitaire universelle. La recommandation, c'est d'investir dans le système de santé. L'OMS recommande 15% du budget qui doit être alloué à la santé. Mais chez nous, on est à moins de 9%. Dans les 9% réservés à la santé, le grand pourcentage, c'est dans l'administration, la gestion fiable des ressources disponibles et mettre encore beaucoup plus de ressources davantage.
Santé encore avec le lancement hier vendredi à Kinshasa des activités du laboratoire pharmaceutique Biogarant. Sa mission consiste à permettre à la population congolaise d'accéder aux médicaments génériques et à moindre coût. La RDC est le deuxième pays d'Afrique dans lequel Biogarant s'installe. Un reportage de Fulbert Balolagué.
Pour le docteur Nicolas Folio, directeur export Biogarant, il n'est pas facile d'œuvrer dans un pays où il n'y a pas une couverture santé universelle. Mais le but est de proposer aux patients des médicaments génériques à un prix abordable. C'est quoi alors un médicament générique? Docteur Laurent Sellé, superviseur des ventes en RDC.
Ce sont les médicaments qui sont comparables sur le plan qualité, efficacité, indication, au principe ce que nous appelons les médicaments spécialité. Les autres peuvent produire facilement ces médicaments, mais en respectant les normes de fabrication édictées par le promoteur de médicaments.
Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise pense que la présence de cette entreprise va contribuer au social des Congolais.
Je pense que cela aura un impact au niveau du social des populations. Et c'est comme ça que nous sommes réjouis de leur visite et de leur implantation à Kinshasa et nous espérons dans toute la République démocratique du Congo.
Des médecins des différents domaines et des pharmaciens présents au lancement ont recommandé à Biogarant de veiller au respect des normes de fabrication, de transport et de conservation pour le bien-être de la population congolaise.
Dans l'actualité, il y a également l'Ituri où le gouverneur de province Johnny Luboyankachama a mis sur pied hier vendredi à Bunia une commission d'enquête pour identifier les militaires cités dans l'exploitation des minerais à Mungwalu dans les territoires de Djougou, la société civile locale et les organisations de défense des droits de l'homme qui saluent cette mesure de l'autorité provinciale souhaitent que ce travail se fasse sans complaisance. À Bunia, une correspondance de Martial Kizebiamungu.
Cette commission est composée de membres de la justice militaire, de FRDC, de la police militaire et de la direction provinciale de mines. Le gouverneur de province, le général Johnny Luboyankachama, justifie sa mesure par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles par les militaires. Ce phénomène est surtout observé dans la région minière de Mungwalu, où des hommes en uniforme sont actifs dans des puits d'or malgré leur statut. Et c'est là au détriment des orpailleurs artisanaux. Sur place à Mungwalu, la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme encouragent les membres de cette commission à aller jusqu'au bout de leur mission afin d'assainir ces secteurs. Cher Ibn Koukoudilawa.
S'ils viennent pour le travail, que ce soit un travail qui sera appréciable afin que la population comprenne et que tout le monde comprenne que nul n'est au-dessus de la loi. C'est là qu'ils seront trouvés en complicité l'entrée des densités de militaires qu'on les arrête. Ou ces militaires qui seront trouvés, qu'on les arrête aussi effectivement, que ce ne soit pas un théâtre où on va assister. On interpelle les gens aujourd'hui, demain ou après, demain on les voit encore retourner dans le milieu, on ne sait pas sur base de quoi.
Cette structure souhaite cependant que cette enquête s'étende dans d'autres territoires, dont Mambasa et Irumu, où la présence de militaires dans des mines est signalée. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Camille.
La sécurité dans la ville de Beni, c'est le thème d'une conférence débat animée ce samedi entre la société civile, les leaders communautaires et les autorités locales sous l'égide du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO. Cette activité s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre les administrés et les autorités locales dans une approche de gouvernance sécuritaire participative en cette période de l'état de siège. Le compte rendu d'André Kitenge.
Ils étaient plus de 50 participants venus des organisations de la société civile, des leaders communautaires, des autorités locales, des représentants des jeunes et des femmes à prendre part à cette conférence de bas. Pour l'organisateur, l'objectif est d'encourager l'expression des populations et leur participation à la recherche des solutions durables et pacifiques aux problèmes de sécurité. Maître Omar Kavota, directeur exécutif du CEPADO.
Notre souci, c'est d'impliquer les communautés locales dans les débats publics sur la sécurité. Et nous, vulgarisons au même moment les textes légaux et réglementaires sur l'état de siège. Nous pensons que les animateurs de l'état de siège et la population doivent avoir une compréhension commune sur les textes qui régissent l'état de siège.
Les participants aux échanges se sont dit satisfaits de cette activité relative à la recherche de la paix et la sécurité dans la région de Beni. C'est le cas des représentants des jeunes et des femmes.
Il nous a été question de nous révéler les vrais contenus de l'état de siège, ce qui est capital parce que la population a une autre compréhension de l'état de siège. Et maintenant, là, nous venons d'être fixés.
L'état de siège qui n'est pas totalement approprié par la population suite au manque de l'information. Et nous sommes vraiment satisfaits pour que la sécurité et la paix reviennent à Beni.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
À Boutembo, la section des affaires civiles de la MONUSCO a débuté hier vendredi après-midi une série de rencontres sur les plans communautaires de protection dans les quatre communes de la ville. C'est pour appuyer les efforts de la communauté dans l'identification des menaces auxquelles elle fait face et de créer en même temps une synergie pour le développement des mécanismes de résilience locale. On écoute le commissaire supérieur David Kakoma, bourgmestre adjoint de la commune de Vulamba, qui salue cette initiative. Il est au micro de Grévis Salomon.
J'ai personnellement salué ce genre d'activité qui a une grande importance pour notre commune, surtout dans le domaine purement sécuritaire. Quand il y a une communion ou là où il y a une communion entre la population et les forces de l'ordre ainsi que les autorités communales, vous constaterez que tout marche bien. Et cette communion-là est très importante surtout pour le domaine purement sécuritaire parce que si la population est bien instruite, est bien avisée, bien sensibilisée et que chaque fois qu'il se présente dans n'importe quel coin, un problème ayant trait à la sécurité et que les autorités ou les forces de l'ordre sont vite signalées, l'intervention rapide va éviter les hémorragies. Que cela puisse continuer parce que ça nous épargne à beaucoup de choses. Je demande seulement aux participants qu'ils prennent conscience que la sécurité ne concerne pas seulement la force de l'ordre, mais la sécurité est une affaire de tout le monde. Tous ceux qui sont dans les comités directeurs doivent prendre conscience de se mettre au travail pour nous permettre à ce que notre sécurité soit bien concentré pour qu'il n'y ait pas de pleurs, de lamentations un peu partout.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont ordonné aujourd'hui le retrait de 160 soldats américains qui entraînaient depuis quelques mois les forces ukrainiennes pour les repositionner ailleurs en Europe. Annonce faite ce samedi par le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Washington a affirmé vendredi après-midi qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir à tout moment. La Russie a déployé suffisamment de soldats pour mener une opération militaire majeure. Le Conseil à la sécurité nationale de la Maison Blanche affirme à la presse qu'une offensive pourrait débuter bientôt, alors que les ressortissants américains, britanniques et norvégiens sont appelés à quitter l'Ukraine au plus vite. Les dirigeants occidentaux poursuivent leurs efforts diplomatiques. Le président français Emmanuel Macron doit avoir un nouvel entretien téléphonique aujourd'hui avec Vladimir Poutine, 5 jours seulement après sa visite au Kremlin. L'Élysée prône ainsi la voie diplomatique, le dialogue et la dissuasion.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur national du Fonds social de la République, Ruffin Boelongui, affirme que 445 millions de dollars américains sont alloués par la Banque mondiale pour financer la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC. Il s'entretient avec Mathieu Ilunga.
Monsieur Ruffin Boilongo, bonjour.
Bonjour.
Nous pouvons avoir un peu une idée sur ce que vous avez présenté comme manifestation d'aujourd'hui.
Je me trouve au Nord Kiv aujourd'hui. C'est pour lancer le briefing de membres du CCP dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet pour la stabilisation de l'Est. Et comme l'autorité de la province a signé l'arrêté portant mise en place du Conseil consultatif provincial, il était important que nous puissions animer cet atelier pour vulgariser davantage les projets et surtout insister sur le rôle des uns et des autres, surtout des membres du comité consultatif provincial, parce que c'est un espace de dialogue, un espace de concertation, un espace d'approbation, un espace de coordination, et donc il est important que chacun comprenne son rôle pour pouvoir accompagner les fonds sociaux dans la mise en œuvre de cette phase du projet pour la stabilisation.
Alors, pour voir le coût de ces projets, et quels sont les programmes prioritaires?
Les projets ont un coût de financement total de 445 millions de dollars. Et dans le cadre de ce projet, nous avons deux composantes essentielles d'activité et une composante d'appui au gouvernement pour le renforcement des capacités institutionnelles. Les programmes composantes d'activité portent sur les infrastructures communautaires au niveau de la base, les travaux à haute intensité en main d'œuvre et les transferts monétaires inconditionnels comme filets sociaux pour appuyer les populations vulnérables.
Alors nous avons vu le Fonds social de la République démocratique du Congo commencer certaines activités dans Step 1, notamment la construction de routes, mais ces projets ne sont pas arrivés à terme. Est-ce qu'il y a encore de chances que cette activité continue pour ces Step 2?
Non, je dois rectifier, il ne faut pas dire que ces projets ne sont pas arrivés à terme, non. Bon, le Fonds social de la République, c'est un établissement public créé à l'initiative des autorités du pays, du gouvernement, et avec pour mission de participer à l'effort de la reconstruction de notre pays. Ceci par la construction, la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques de base et la promotion de création des emplois. Tous les projets entamés dans le cadre de la phase 1 ont été complètement achevés. Il n'y a aucun projet alors, à ma connaissance, qui serait resté inachevé. Et donc, d'un projet à un autre, c'est des contextes parfois différents. Nous avons clôturé en bonté la phase 1. D'ailleurs, je suis passé dans chaque province, y compris le Nord Kivu, pour partager avec les partenaires les réalisations dans le cadre de la phase 1 et annoncer justement la phase 2 qui est en train de commencer. Conçue pour être clôturée le 26 février 2024. Donc, nous avons encore à peu près 2 ans de mise en œuvre. Les projets, il faut le dire, a déjà commencé en 2020 au niveau du Kasaï central et du Nord Ubangi. Il faut dire aussi que le Nord Kivu, c'est la dernière antenne où nous sommes en train de démarrer les activités. Et il y a quelques jours, 2-3 jours, j'étais à Ituri pour lancer effectivement les activités du projet. Et aujourd'hui, nous sommes au Nord Kivu.
Vous pouvez être spécifique pour nous dire que dans le Nord Kivu, ce projet concerne quoi normalement?
Donc, le projet a 2 activités. Retenu à travers 2 composantes essentielles. La composante 1, c'est pour construire les infrastructures socio-économiques de base dans 3 secteurs, éducation, santé et adduction d'eau. Tant, bien sûr, les groupements ou les communautés qui seront identifiées. La 2e composante porte sur les défilés sociaux, notamment les travaux à haute intensité en main d'œuvre en milieu urbain, comme Goma, Beni et Butembo, plus ou moins aussi cité Lubero, et le transfert monétaire inconditionnel en milieu rural, c'est-à-dire au niveau des groupements qui seront ciblés. C'est cela les activités du projet. Au-delà de renforcement des capacités institutionnelles qui concernent certains services spécialisés, notamment le ministère des Affaires sociales, la CNR et le Fonds social, bien sûr.
Nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur national du Fonds social de la République, Ruffin Boilongo, était interviewé à Goma par Mathieu Ilunga Chamboui. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Pierre Lameji qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Noëlla Luzitu Kabambi. Retrouvez cette édition sur www.radiookapi.net.